Tout à l'heure, le Père Laurence, dans son introduction, parlait de la conférence comme du fait de porter ensemble un travail, une mission. Et je crois que, plus profondément encore, il s'agit pour nous de porter ensemble un nom. Ce nom imprononçable que les Juifs appellent le tétragramme parce qu'il s'agit de quatre voyelles hébraïques qui ne se prononcent pas. Je vous les ai dessinées, on peut dire, parce que l'alphabet hébraïque est avant tout un dessin, une calligraphie. Et c'est de cela dont j'aimerais vous entretenir aujourd'hui, de ce nom imprononçable, de ce nom du Père qui habite chacun de nos noms. Et je commencerai par une citation de Martin Buber que beaucoup d'entre vous doivent connaître, peut-être avoir lu. Il dit ceci: Dieu, point d'interrogation, c'est le mot le plus chargé de tous les mots humains. Pas un qui n'ait été aussi souillé, aussi lacéré. C'est précisément la raison pour laquelle je ne puis y renoncer. Des générations humaines ont déchargé le poids de leur vie angoissée sur ce mot et l'ont écrasé. Il gît dans la poussière, chargé de toute leur pesanteur. Les hommes, avec leur division religieuse, l'ont déchiré. Ils ont tué pour lui et pour lui, ils sont morts. Ils conservent l'empreinte de leurs doigts et de leurs marques sanglantes. Où trouverais-je un mot qui lui ressemblât pour qualifier le Très-Haut ? Je crois que tout est dit dans ces quelques mots de Buber et ce qui m'habite... Ah, ben voilà que le tétragramme s'envole de lui-même. Ah oui, c'est là. OK. Ce qui m'habite profondément et que, au fond, j'aimerais... essayer de tenter de partager avec vous ce soir, c'est au fond ce désir de désincarcérer le nom de Dieu de la poussière ou de la pesanteur dans laquelle nous l'avons enserré et dans laquelle nous l'enfouissons toujours à nouveau. Comment est-ce qu'au fond nous en sommes arrivés là dans l'histoire alors qu'il y a dans ce nom tant de vie, tant d'élan? Et à mon avis, il y a là toute l'énergie dont nous avons besoin pour construire une vraie fraternité, pour nous relier les uns aux autres. Et au fond, au lieu de cela, nous passons notre temps à nous déchirer au nom de ce nom pourtant voué à nous rassembler. C'est vraiment un mystère. Vous savez que je viens de la tradition réformée qui a toujours beaucoup valorisé la racine juive du christianisme. Et je pense que nous aurions avantage à revisiter plus souvent notre patrimoine à la lumière de cette lecture infinie que la tradition juive fait des textes bibliques. Elle fait des textes une lecture infinie, une lecture plurielle, enrichi des multiples commentaires rabbiniques, et c'est en partie là que j'ai puisé la substance de mon exposé de ce soir, parce que je souhaiterais beaucoup partager avec vous quelques éléments qui pourraient, je l'espère, nourrir votre propre chemin de méditation. Alors, j'aimerais au fond parler ce soir du nom de Dieu comme d'un nom qui évide les évidences. Un nom qui, au fond, vient défaire toutes les images que nous pouvons avoir, que nous nous forgeons continuellement de Dieu, et qui, du coup, souffle en nous une brise de liberté, une brise d'audace, oser des chemins nouveaux, à la fois dans nos vies, mais aussi dans nos communautés et dans le monde. Ce nom, c'est en soi un mystère, un nom qui, au fond, n'en est pas un, puisqu'il s'agit en hébreu de quatre consonnes imprononçables et qui, de ce fait, ont donné lieu à toutes sortes de prononciations différentes, dont les plus courantes et néanmoins erronées sont Yahvé ou Jéhovah. Vous le savez peut-être, le texte hébraïque est essentiellement composé de consonnes, et ce n'est qu'entre le 7e siècle et le 10e siècle de notre ère que les savants juifs, qu'on appelle les massorètes, ont vocalisé le texte, c'est-à-dire qu'ils lui ont mis des petits points sous les consonnes pour qu'il soit prononcé et au fond pour assurer la pérennité de la tradition, puisque au fond un mot fait de consonnes peut être prononcé de manière très différente. Donc l'originalité du tétragramme, c'est qu'il ne se prononce pas tel qu'il est écrit. Et quand il apparaît dans le texte biblique ou dans les prières juives, eh bien, il est lu en général Adonai, ou encore, ce qui veut dire mon Seigneur. Ou on le lit aussi Hachem, ce qui signifie tout simplement le nom. Hachem, c'est le nom en hébreu. Mais ce sont bien sûr toujours des lectures approximatives, des lectures bégayantes, qui pointent au fond sur l'impossibilité d'épuiser le mystère de ce nom qui, à mon sens, contient aussi l'énigme de notre propre nom, l'énigme que nous sommes à nous-mêmes et aux autres, puisque ce nom, comme on va le voir, comme j'aimerais essayer de vous montrer, est intimement lié à notre propre nom. C'est le professeur Armand Abekassi qui dit ceci: un nom qui ne se lit pas comme il s'écrit pour désigner celui qui le porte, c'est assurément la dimension d'absence inscrite dans toute présence. Un nom qui ne se lit pas comme il s'écrit, c'est donc la dimension d'absence, je dirais même de mystère, hein, d'énigme. Et en effet, en toute présence, en tout être humain, quelque chose nous échappe qui questionne notre prétention à le connaître, à tout connaître de l'autre. Alors, ces quatre consonnes imprononçables, je le répète, ont été traduites en grec par le mot « kurios » qui signifie « seigneur », que nous employons largement, bien sûr, dans nos liturgies chrétiennes. Mais au fond, cette déportation vers la culture hellénistique a eu pour conséquence catastrophique, à mon avis, d'induire l'idée d'un dieu potentat, d'un dieu enrobé de toute puissance, alors que la racine sémitique, cette racine Awa en hébreu, dit tout à fait autre chose. Cette racine signifie d'abord souffler. Souffler en parlant du vent, puis émettre un son, donc parler, et enfin exister, désirer, créer. Tous ces sens convergent au fond vers l'idée du souffle et de la voix qui émet un son. Souvenez-vous de ce fameux épisode d'Élie, qui est rencontré par Dieu, non pas dans la tempête ou dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais, comme dit le texte, dans la voix d'un fin silence. C'est une contradiction dans les termes, hein, une voix qui fait silence. Mais Dieu sait si vous qui méditez, pouvez être attentif à cette belle formule, une voix de fin silence. Et ce qui m'a beaucoup surprise et en même temps réjouie, c'est que dans les textes de la Kabbale, par exemple, donc qui est la tradition ou la veine ésotérique de la tradition juive, le tétragramme, donc ces quatre consonnes, est souvent remplacé tout simplement par trois petits points, comme si il fallait laisser là dans le texte un espace, un vide, une manière de souligner que peut-être que le silence, l'espace vide, est la forme la plus éloquente de la révélation, la forme la plus accomplie, et que nous devrions souvent peut-être préférer la sobriété à l'ébriété en matière de discours sur Dieu. nous qui sommes tellement sûrs toujours de savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense. C'est le philosophe Jean-Luc Marion, et c'est un peu une boutade, mais qui dit « Le silence sur Dieu est une forme de politesse ». Je trouve que cette phrase est à méditer. Alors voilà, si on voulait au fond traduire ces quatre consonnes, il faudrait dire « silence a dit hein ». Car ce nom invite effectivement au silence, il invite à trouver la porte d'entrée en nous-mêmes. Et ceci, c'est quand même une constante dans la tradition de méditation, dans la tradition des grands mystiques, quand on pense que Maître Eckhart lui-même a dit « Dieu est une parole à l'extrémité du silence ». Dieu est une parole à l'extrémité du silence. Donc, Adonai, les Juifs, la tradition juive dit souvent « le Saint béni soit-il hein, », mais qui veut traduire ces quatre consonnes, c'est avant tout un souffle. C'est avant tout un respire sur lequel vient prendre appui la parole. Au fond, si nous réfléchissons à la manière dont se passe une naissance, le cri, le premier cri du nouveau-né jaillit de sa première inspiration. Il n'y a pas de parole sans respire. Il n'y a pas de parole sans le souffle qui l'apporte. Et c'est ce petit filet d'air par lequel nous respirons et du coup nous parlons qui, au fond, est dans chaque vie humaine la trace de la présence de Dieu. Le livre des Proverbes, je vous donne la citation, c'est Proverbes 20, verset 27, a une très belle manière d'exprimer ce lien entre notre souffle et la présence de Dieu en nous. Quand il dit « Le souffle de l'homme est une lampe d'Adonai, une lampe qui explore les tréfonds de l'être ». C'est magnifique. L'idée est que le souffle qui nous porte dans la vie est une manière que Dieu a de faire de la lumière en nous. La traduction que donne André Chouraki de ce passage des Proverbes, il dit « L'haleine de l'humain est une lampe d'Adonai, elle recherche toutes les chambres du ventre. » Quand on pense que le ventre est précisément le lieu où la vie est engendrée. Hein. Donc le souffle qui nous traverse serait au fond un don de Dieu servant à faire la lumière au plus profond de nos entrailles, c'est-à-dire dans ce lieu caché à nous-mêmes qui abrite la vie en nous, qui permet à la vie en nous de grandir. Comment d'ailleurs ne pas penser aux multiples voies spirituelles et notamment au yoga, bien sûr, qui explore les profondeurs de l'être à partir du souffle. Mais ce qui m'intéresse au fond particulièrement ici, c'est le lien entre le souffle et la parole. Puisque sans l'appui du souffle, nous ne saurions émettre des sons et donc parler. Et la traduction araméenne de la traduction en araméen, a bien repéré ce lien quand elle traduit la phrase de Genèse 2, verset 7, l'homme devint une âme vivante, hein, à la suite du fait que Dieu lui a insufflé son haleine. L'homme devint une âme vivante. Elle traduit cette traduction par « l'homme devint un esprit doté de parole ». C'est intéressant parce qu'on passe de l'âme à la faculté de parler. Et Aristote, déjà, avait fait de la voix une caractéristique sonore de ce qui a une âme. Il dit « rien de ce qui est sans âme ne produit de voix ». Pour parler, il faut avoir une âme. Et Hegel reprendra cette même idée quand il dit « la voix humaine se fait reconnaître comme écho de l'âme elle-même ». Donc ce lien entre le souffle, la parole, l'âme. Maintenant, j'aimerais prendre encore une citation d'un spécialiste de la Kabbale qui dit ceci, Gershom Scholem, pour ceux qui l'auraient éventuellement lu. Le nom de Dieu est le nom essentiel qui est à l'origine de tout langage. L'absence de sens dans ce nom divin renvoie à sa position centrale au sein de la révélation dont il est la base. Au fond, le fait qu'il n'y ait pas de sens, puisque je vais encore essayer de creuser cette idée, mais que ce nom en soi ne signifie rien, en tout cas le sens n'en est pas évident, le fait qu'il n'ait pas de sens en lui-même renvoie à l'idée que nous avons à répondre de ce sens. Nous avons à le chercher. Il ne nous est pas donné comme tout fait, comme tout préparé, mais c'est à nous de le trouver et, je dirais même plus, à chacun d'entre nous de lui trouver un sens dans sa propre vie. Gershom Scholem, accentue beaucoup cette idée quand il dit il a pas de sens, ce nom n'a pas de sens en lui-même, mais par contre, ce qui a un sens, c'est la transmission de ce nom. C'est ce que nous faisons, les uns et les autres, de ce nom imprononçable, au fond de cette énigme. Qu'est-ce qui, dans nos vies, comment est-ce que nous mettons en œuvre la question que pose le nom de Dieu dans nos vies et comment nous en parlons et nous le transmettons à nos enfants. Et au fond, nous voici, je crois, devant l'essentiel, c'est que Dieu représente à la fois dans le langage et dans la réalité du monde et de nos vies ce que Michel de Certeau appelle un principe d'évidement. D'évidement. Au fond, un mot qui vient signifier une dimension d'absence, de mystère, de silence, cette même dimension qui traverse tout être, toute présence, et qui rend, une fois encore, impossible la mainmise, l'accaparement, la prétention à tout connaître de l'autre. Dieu serait, au fond, avant tout, du côté de l'énigme et de la question, non pas du côté de l'évidence et de la réponse. Et il est vrai que les questions ouvrent l'horizon, alors que les réponses le ferment souvent. Les questions nous rapprochent, parce qu'ensemble, nous nous découvrons dans la fragilité et en même temps dans la fraternité de ceux qui ne savent pas grand-chose, alors que les réponses nous séparent. Dieu sait si dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire des Églises, nous avons eu affaire à beaucoup de réponses qui nous ont séparés. Et je crois vraiment qu'on peut là se souvenir que qu'est-ce qui nourrit le peuple d'Israël au désert, sinon une question. Vous savez que le mot « man »,« man ou » en hébreu, c'est littéralement un « qu'est-ce que c'est ?». Au fond, Israël, au désert, chaque matin, sur le sol, ramassait des « qu'est-ce que c'est ?». Voilà. C'est quand même intéressant. Alors, au fond, voilà, ce que je veux dire, c'est que Dieu est tout à la fois l'irreprésentable, l'inscrutable, l'indicible, l'infini, dont notre pensée ne peut pas prendre la mesure. Mais ce retrait est tout le contraire d'un néant. Il oriente au contraire notre quête de sens. Il se donne comme un appel à chercher. Et cette part de questionnement, d'incertitude, d'absence qui est intimement tissée à la vie, est à lire au fond non pas comme un moins, comme un manque qui nous ferait souffrir, mais au contraire, comme le signe de la sollicitude divine qui, en ne se livrant pas tout entière, nous prend au sérieux. Nous prend au sérieux dans notre capacité à être de vrais partenaires et non pas de simples marionnettes. Si Dieu nous avait donné toutes les réponses à nos questions, mais quel ennui ! La vie serait tout simplement mortelle. Et en allemand, le mot qui signifie mystère, Geheimnis, contient en son centre la syllabe Heim, qui veut dire chez soi, hein, mais la maison, le chez soi. Et je crois que de ce petit jeu de mots, on peut faire aussi méditer là-dessus, c'est qu'il s'agit au fond de faire de ce qui est secret, de ce qui est mystérieux, de l'énigme, il s'agit de faire notre maison en ce monde, habiter le secret plutôt que de vouloir le fuir. Ne pas vouloir non plus expliquer à tout prix le mystère des êtres et des choses, mais plutôt apprendre à exister nous-mêmes en tant que mystère. Et cela, à mon avis, c'est d'une certaine manière une façon d'échapper à l'idolâtrie qui traverse notre société et qui, bien sûr, nous menace de l'intérieur nous-mêmes. Parce que l'idole, justement, c'est avant tout ce que nous fabriquons pour combler le vide, pour combler l'angoisse, pour combler l'incertain. Vous vous souvenez encore une fois là d'Israël dans le désert. Si Israël s'est construit un veau d'or, c'est bien parce que Moïse ne redescendait pas de la montagne et que l'attente, donc le vide, donc l'incertitude, était intolérable. Dans le texte, il est dit, le peuple dit, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. C'est extraordinaire. C'est au fond, on a perdu celui qui nous conduisait. On ne sait plus ce qu'il est devenu. Et c'est tellement insupportable qu'il faut trouver de quoi le remplacer, de quoi combler ce manque, cette attente. Le rabbin Marc Alain Wachnin, que vous avez sûrement fréquenté aussi, enfin qui est un très bel auteur que j'aime beaucoup, lui dit ceci. L'idolâtrie commence avec l'impatience. L'impatience est idolâtrie. Elle veut savoir, saisir, avoir sous la main de suite la figure de son Dieu. Vouloir tout de suite aboutit à tout figer. Dieu tout de suite, Dieu pétrifié, Dieu mort, veau d'or. L'impatience, deux points, refus de donner la possibilité au temps d'être temps. Belle idée que je vous confie aussi, parce que nous sommes effectivement dans une société du tout de suite, qui ne supporte plus la frustration, d'où le foisonnement d'idoles. Donc, par rapport à cette idée de donner du temps au temps, je reviens à mes quatre consonnes, puisque, au fond, ces quatre consonnes sont une forme du verbe être qui, en se combinant différemment, écrivent à la fois le présent, le passé et le futur. Pour dire une chose très, très belle et à la fois très simple, c'est que Dieu est au fond celui qui accompagne toutes les dimensions de notre temps. Être, avoir été et avoir à être. Et je crois qu'il faut au fond comprendre ce verbe être, non pas dans un sens métaphysique, parce qu'il ne dit rien de l'essence de Dieu lui-même, dont nous ignorons tout une fois encore, mais vraiment dans un sens existentiel. Dieu est celui qui devient, qui advient, qui survient avec nous, jour après jour, dans ce que nous sommes appelés à vivre. Et au fond, il n'y a pas d'autre preuve de l'existence de Dieu que celle qui se donne à travers l'expérience qu'en tout ce que nous vivons, il y a toujours de l'autre, il y a toujours un autre, entre nous et en nous. Un autre qui nous appelle à habiter le nom que nous sommes. À propos du nom, je trouve que l'hébreu est toujours extraordinairement imaginatif, enfin nous aide à entendre des choses essentielles. Le nom en hébreu se dit Shem et est très proche d'un autre nom qui se prononce Sham et qui veut dire là-bas. Au fond, le nom, c'est un là-bas. Mon nom, c'est en même temps ce que je suis, mais c'est ce que je suis appelée à devenir. Et comme le dit Marc-Alain Wachnin, le nom, c'est ne pas finir de naître. C'est aller plus avant, c'est ne pas se contenter de ce qui est, et c'est le sens même de l'existence. L'existence, c'est exister, hein, projeter en avant. Et là, pour changer de registre, parce qu'il s'agit d'un auteur, d'un littéraire, Octavio Paz, qui dit « Être soi-même revient toujours à être cet autre que nous sommes et que nous portons caché en nous-mêmes, promesse ou possibilité d'être. » Être, c'est être cet autre qui est caché en nous-mêmes. C'est être ce là-bas, hein, l'idée de ce nom qui est en même temps un là-bas. Et nous pouvons donc toujours nous attendre à de l'autre, à un autre en nous, parce que Dieu, si on en croit ces quatre consonnes, n'est pas tant celui qui est que celui qui fait être, que celui qui fait advenir, que celui qui donne à être. Il est en nous la vie qui demande à se déployer, il est en nous la créativité qui cherche son accomplissement, la générosité qui attend de se donner. Il est surtout et avant tout un formidable appel à la liberté, une avancée hors les murs, au large de toutes les entraves qui nous retiennent prisonniers de nos Égyptes intérieures. On parle beaucoup du « je suis divin », hein, dont je crois dans beaucoup de livres de littérature spirituelle, on trouve cette expression qui est tirée du tétragramme. Moi, je dirais quand même que c'est plus, pour moi en tout cas, un « je serai » qu'un « je suis », parce qu'il s'agit au fond toujours de cette dynamique de la vie, de ce mouvement, de cette trouée qui traverse ce qui résiste, de cette passée qui passe à travers les impasses. Il s'agit d'une poussée qui nous fait, au fond, toujours à nouveau traverser du statut d'esclave à celui de sujet de nos existences. Et une fois encore, là, on a une très belle image dans l'hébreu, puisque en hébreu, on a le même mot pour esclave et pour serviteur. Et qu'au fond, peut-être bien que toute notre existence, ce n'est que la traversée de ce mot pour passer du statut d'esclave, donc de celui ou celle qui subit sa vie, au statut de serviteur ou de sujet, serviteur de celui qui nous libère, hein, serviteur du Dieu vivant. Et je crois que là, on a toute l'histoire de la Pâque. La Pâque qui est toujours à refaire, qui est cette sortie de l'aliénation pour aller célébrer Dieu au désert, c'est-à-dire au lieu du silence où nous sommes rencontrés prioritairement. Au fond, c'est la question « qui servons-nous dans nos vies ? À quoi sommes-nous asservis ?» avec cette question de l'aliénation et du sujet. Ce passage d'une existence que l'on subit à une existence que l'on choisit, c'est au fond toute l'aventure de notre foi. Il s'agit de quitter un destin qui est celui que nous dictent les idoles auxquelles nous nous attachons, y compris certaines représentations de Dieu, quitter un destin pour aller vers un festin, le festin de la liberté inscrite au fond de nous, au fond de chacun d'entre nous, mais que nous passons notre temps à recouvrir, à oublier le plus souvent. L'hébreu le dit encore autrement quand il nous rappelle que le mot « je » en hébreu, « ani », est très proche d'un autre mot qui veut dire « néant ». C'est l'inverse du mot « néant ». Et qu'au fond, le travail de notre vie, c'est de passer de ce qui nous anéantit à ce qui nous construit, à ce qui fait de nous des sujets libres. Alors, ça va, si vous êtes encore un petit peu réveillés, je me permets de vous faire un petit détour par un épisode que vous connaissez bien, qui est ce fameux épisode de Moïse au buisson ardent, qui se laisse interroger par cette vision de ce fameux buisson qui brûle sans se consumer. Je vous rappelle que vous pouvez aller relire ce récit au chapitre 3 du livre de l'Exode. Moïse, donc, qui, alors qu'il vivait en Égypte, après avoir été, vous vous souvenez, élevé par la fille du Pharaon, Moïse a été contraint de s'exiler en terre de Madian parce qu'il a tué un Égyptien. Il s'est, au fond, insurgé un jour contre un Égyptien qui maltraitait l'un de ses frères hébreux. Et à la suite de ce meurtre, il a été contraint de s'exiler. Et là, il a épousé une fille du prêtre de Madian, Sippora, avec qui il a eu un fils qu'il a appelé d'un nom très significatif, Gershom, qui signifie « émigrer là ».« Émigrer ». Pourquoi ? Parce que, dit-il, je suis devenu un émigré en terre étrangère. Donc, au moment où Moïse va faire cette rencontre au buisson ardent, j'aimerais le souligner parce que c'est important, il est au fond en situation de fragilité extrême. Il vit sur une terre étrangère qui n'est pas la sienne et on pourrait dire qu'il est au fond exilé intérieurement du fait de cette culpabilité qui le ronge d'avoir tué un homme. Et le récit commence ainsi. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Et un mystique juif du XVIe siècle dit « Il n'y a rien qui peut descendre du ciel s'il y a une force qui le désire. » Pour que quelque chose descende, il faut cette force, il faut cette force de l'appel, il faut cette force du cri humain. Au fond, pour dire « Dieu ne s'impose pas à nous, il ne nous contraint pas, il attend que nous formulions notre désir. » Évidemment, ce désir peut être dit à travers le chant, la louange, ou à travers le cri, bien sûr, à travers la révolte aussi. Mais l'événement, c'est au fond toujours la rencontre de deux désirs. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Moïse, prisonnier de son passé, et le peuple, esclave d'un pouvoir totalitaire. Au fond, ces deux entités, on peut dire, elles sont au point mort, elles sont mal en point, en mal d'espérance. Et c'est là, au fond, à travers les épines de leur histoire respective, que Dieu va se révéler. En faisant paître le troupeau de son beau-père, donc, Moïse est intrigué par de l'insolite. Et il fait un détour pour voir ce buisson qui brûle sans se consumer. Et on pourrait dire que c'est à ce moment-là que les épines deviennent parlantes. Une voix, effectivement, l'appelle par son nom et lui demande d'ôter ses sandales. Pour dire quoi ? Que la rencontre avec Dieu se fait toujours à travers le moi, à travers quelque chose à ôter. Ôter, tailler, émonder dans ce qui nous encombre. Et non pas en rajouter. Il faut se dépouiller de tout ce qui nous prive du contact avec notre terre intérieure, qui est une terre sainte. Hein. Je vous rappelle que l'étymologie de saint en hébreu veut dire séparé, défusionné. Hein. Pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait distance, défusionnement. Et ça, c'est la condition de la rencontre. Et alors, qu'est-ce que Moïse entend ? De complètement essentiel, c'est une parole qui lui révèle que l'aliénation, quelle qu'elle soit, l'aliénation n'est pas un lieu habitable pour les humains. Que la souffrance de ne pas être libre est une prison dont il faut sortir. Que dit le texte ? J'ai vu, c'est Dieu qui parle, hein, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses gardes-chiourmes. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Je vous rappelle qu'en hébreu, l'Égypte, Mitzrayim, a une connotation d'oppression. C'est un endroit sans issue, c'est un endroit serré, les barreaux d'une prison, c'est un étau qui asphyxie. L'Égypte, c'est au fond, bibliquement, toujours l'opposé de la terre de la promesse qui est toujours décrite comme bonne et large. Au fond, la terre de la promesse, la terre qu'on appelle promise, moi j'aime mieux promesse, terre de la promesse, parce que terre promise, c'est comme si c'était un dû, comme si c'était quelque chose qui nous était absolument promis et puis qu'on l'obtiendrait comme ça. Alors que la terre de la promesse, il faut la chercher. Eh bien, cette terre-là, c'est la terre où au fond, on peut retrouver son souffle, où on respire à nouveau. Alors que l'Égypte, c'est le lieu de l'angoisse, c'est le lieu qui nous serre la gorge. Donc, de la part de Dieu, cette idée qu'il a vu, il a vu la misère de son peuple et qui va le faire monter vers un pays où il va pouvoir respirer. Et c'est quand même très intéressant de repérer qu'au fond, au rapport de dépendance entre l'humain et le divin, qui était vraiment le rapport, on va dire, naturel des populations des environs de Canaan à l'époque, eh bien, à ce rapport-là de dépendance entre les humains et le divin, Israël substitue au fond un rapport d'amour filial. Chaque être humain désormais est enfant d'un amour qui lui promet « Je vais m'approcher de toi pour te faire sortir de ton Égypte », à savoir de tout ce qui t'empêche d'être vivant dans ta vie, et je vais te montrer ce qu'est la liberté, ou plutôt comment tu peux t'y tenir, comment tu peux t'exercer à être libre. Et bibliquement, l'amour est toujours une élection. C'est toujours le choix d'un tu qui s'adresse à un je ou d'un je qui s'adresse à un tu. C'est une élection qui a lieu à travers une conversation. C'est pour ça qu'on parle d'un Dieu personnel. Contrairement à cette idée tellement répandue aujourd'hui d'un Dieu énergie, d'un Dieu grand tout, d'un Dieu... C'est pas que Dieu... on pourra en discuter, mais c'est pas que Dieu revête des caractéristiques anthropomorphiques, mais de dire que nous avons affaire à un Dieu personnel, nous avons affaire à un Dieu dont la présence se révèle à travers une parole, à travers une relation de parole. Juste une petite notation, Rashi, qui est le très grand, fameux exégète qui vivait à Troyes au XIe siècle, souligne l'humilité de Dieu. Au fond, il dit que le fait que Dieu se manifeste du milieu du buisson, et non pas d'un arbre extrêmement élevé ou d'une grande montagne, souligne justement cette magnifique humilité de Dieu. Le fait que Dieu, au fond, s'il peut se manifester dans un buisson, c'est que nul endroit, aussi humble soit-il, ne lui échappe. Et du coup, nul acte ou nulle pensée ne lui échappe. Dieu peut nous faire signe à travers le plus ténu, à travers le plus ardu. Et de fait, ce sont ces épines dont je disais qu'elles sont effectivement parlantes. Et que cette descente de Dieu est toujours dans la Bible l'expression de sa compassion, de sa passion d'être avec nous. Le Dieu biblique, nous le savons bien, est à la fois le tout haut et le tout proche, le tout autre et le tout nôtre. Vous pourrez aller relire ce beau passage du psaume 113, verset 5, qu'il dit « Qui ressemble à Adonai, notre Dieu, il siège tout en haut et regarde tout en bas les cieux et la terre. » Il siège tout en haut, mais il regarde tout en bas. avec, on peut bien sûr établir le parallèle de cette descente de Dieu avec le célèbre l'hymne de Paul aux Philippiens, pardon, dans la deuxième épître aux Philippiens, hein, qu'on nomme généralement, enfin, dont on appelle dans un nom un peu bizarre, la kénose, l'abaissement, hein, l'abaissement du Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. On a ce même mouvement d'abaissement, de descente, de dépouillement. Je continue ma petite histoire parce que, au fond, le dialogue ne s'arrête pas là, hein, puisque je vous disais que les épines sont parlantes. Quelque chose est dit là de fondamental, où Dieu élit Moïse comme libérateur de son peuple. Et évidemment, Moïse rouspète, comme beaucoup de prophètes, comme pratiquement tous, il résiste. Et en disant, mais qui suis-je? Qui suis-je pour accomplir cela? Et alors qu'il est au fond préoccupé de lui-même, eh bien, il reçoit pour toute réponse, une promesse en forme d'énigme. Je serai avec toi. Pas de réponse, vraiment. Hein. Je serai avec toi. Et Rashi, le fameux commentateur, dit, ce n'est pas de toi, Moïse, qu'il s'agit, mais c'est de moi, dit Dieu. Arrête de te demander ce qui tu es, si bien tu es assez bien, pas bien, mais vas-y. Hein. Ça, c'est aussi assez extraordinaire et assez libérateur. Va et en allant, en répondant, enfin, en donnant ta réponse à mon appel, eh ben, tu vas comprendre. Tu comprendras que je suis avec toi. Au fond, la manière que Dieu a d'être avec nous, c'est de nous appeler à aller et en allant à découvrir que nous sommes accompagnés. C'est de ce décentrement, au fond, que nous nous recevons. C'est en allant là où nous sommes envoyés que nous comprenons qui nous sommes. On peut dire que Moïse ne sait pas qui suis-je, hein, il ne sait pas qui il est, mais c'est en allant qu'il va le découvrir. Saint Augustin disait « Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche. » Avance sur ta route, car elle n'existe que par ta marche. Mais Moïse insiste encore et il dit, mais si mes frères me demandent ton nom, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Vient alors cette formule très mystérieuse dont on peut dire qu'elle est au fond une paraphrase du tétragramme imprononçable. Cette formule qui est traduite dans nos Bibles de façon diverse, vous l'avez sûrement remarqué. « Je suis celui qui suis », dit la Bible de Jérusalem. « Je suis qui je serai », dit la traduction écuménique de la Bible. « Je serai qui je serai », dit la traduction de Chouraki. Ou bien « Je serai qui je suis », dit Xavier Léon Dufour. Vous voyez que cette espèce de valse-hésitation autour de la traduction vient en fait du fait de nouveau que l'hébreu est une langue qui nous désarçonne. Elle ne connaît que deux temps. Elle connaît le temps de l'accompli et le temps de l'inaccompli. Or, la forme du verbe qui est employée ici est précisément la première personne de l'inaccompli, c'est-à-dire quelque chose qui traduit un mouvement inachevé, un avènement plutôt qu'un état. Et en français, on va évidemment utiliser le futur pour dire cela. Hein, je serai. Mais c'est pas vraiment. Enfin, ça reste une approximation parce que l'inaccompli ne désigne pas simplement ce qui va venir, mais c'est une action qui balaye le temps, une action qui a sa racine dans le passé et dans le présent et qui se projette vers l'avenir. Au fond, l'inaccompli, c'est l'advenir. C'est l'advenir, c'est l'événement d'être dont le sens est aux antipodes de l'être tel que le conçoit la métaphysique issue de la pensée grecque. Je serai, si vous voulez, ben c'est le dynamisme même de la vie en train de se faire, en train de se vivre, et qui entraîne évidemment ce qui a été comme ce qui sera. Donc, je serai qui je serai. On a deux je serai. Au fond, c'est deux désirs reliés par un tout petit mot qui veut dire qui veut dire cela, qui veut dire quand. Et au fond, on peut approximativement traduire « je serai celui que je deviendrai pour toi ». Je serai celui dont tu vas faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne fais rien de moi, je ne serai rien pour toi. Hein. C'est là le nom de Dieu. C'est un nom, au fond, fondé sur la relation. Un nom qui parle de la vérité relationnelle. Un nom qui pousse Moïse à demander dans un même souffle « qui suis-je et qui es-tu ? » Hein ? Qui suis-je et qui es-tu ? Et pour illustrer ce point, en espérant ne pas trop vous prendre la tête, mais c'est parce que c'est important, un tout petit détour encore par l'exégèse juive. Parce que pour ne pas prononcer le mot, le tétragramme, comme je vous l'ai dit, on dit Hachem, on dit le nom. Or, l'envers de Hachem, en hébreu, c'est Moïse, Moïse. Très intéressant. Moïse, si vous voulez, c'est le nom à l'envers qui demande à Hachem, le nom à l'endroit, de lui dire son nom. Vous comprenez ? Moïse, c'est le nom à l'envers qui dit à Hachem, « Dis-moi qui je serai ». Et le nom lui répond « Je serai celui que je deviendrai pour toi ». Au fond, le premier « Je serai », c'est Dieu qui dit à Moïse, qui appelle Moïse à devenir le libérateur de son peuple, donc il lui donne une mission. Et le second, c'est Moïse en train de devenir qui il est en répondant à l'appel divin. C'est donc en se risquant à répondre à l'appel du vivant, à l'appel de Dieu, que Moïse va découvrir le « je suis » qui est en lui. Il y a en hébreu, dans le livre de l'Exode une expression qui m'a toujours beaucoup frappée concernant le peuple qui écoute, qui reçoit les paroles de Dieu, les paroles du décalogue, et qui dit « nous ferons et nous entendrons ». Ça paraît bizarre parce qu'on pourrait dire ben, « il faut d'abord entendre pour pouvoir faire ». Eh bien non, nous ferons parce que c'est en faisant que l'on comprend à quoi on est appelé. Et ça, je crois que c'est vraiment c'est quelque chose de très important, enfin de très beau à méditer. C'est en faisant. Arrêtons quelquefois de chercher du sens, mais faisons. Entrons dans l'action, entrons dans la voie qui nous est proposée, que nous sentons être la voie juste, et nous comprendrons. Donc, pour le dire encore autrement et peut-être plus existentiellement, le premier « je serai », dans cette expression « je serai qui je serai », le premier « je serai », c'est l'appel à être qui habite chacun d'entre nous. Et le second, eh bien, c'est la forme que nous donnons à cet appel. C'est la réponse que nous donnons à cet appel dans nos existences. Au fond, on pourrait se dire que Dieu est l'envers, qu'il est l'autre face de notre nom, qu'il est précisément ce là-bas qui nous invite à ne pas nous contenter de ce qui est, mais à chercher plus avant, à marcher toujours plus avant vers la terre de la promesse. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi Françoise Dolto a pu dire un jour « le seul péché pour moi est de ne pas se risquer pour vivre son désir ». Ne pas se risquer pour vivre son désir, c'est peut-être bien le seul et l'unique péché. Ne pas répondre à cet appel du là-bas. Hein. Peut-être que ce que nous ignorons souvent, d'ailleurs, c'est que notre désir profond, ce à quoi nous aspirons, n'est autre que ce que Dieu désire, n'est autre que ce désir que Dieu a de nous. C'est pourquoi, quand nous n'écoutons pas ce désir, nous nous renions non seulement nous-mêmes, mais nous renions Dieu en nous. Et inversement, comme le dit le père André Louf, obéir à Dieu est toujours obéir à l'envie la plus profonde qui nous habite, à ce qu'il y a de meilleur et de plus vrai en tout homme. Je ne sais pas pourquoi on a toujours cette manie de penser que le désir de Dieu est opposé, la volonté de Dieu, c'est justement pas la nôtre. Hein. Bon, on pourra en reparler. Et peut-être que faire silence, méditer, eh bien, c'est justement rejoindre en nous ce lieu où se rencontrent le désir de Dieu et le nôtre. Quand on commence à entendre cela, je crois qu'on sort alors de son sommeil. On comprend que ce qui nous constitue et nous construit, c'est la relation, c'est l'alliance avec notre origine, avec ce nom qui remet notre nom à l'endroit. Alors, je crois qu'il est vraiment temps maintenant de rassembler mon propos. Au fond, ce que j'ai voulu essayer de partager avec vous, c'est que Dieu se révèle dans nos vies avant tout comme une passée, comme un appel qui nous appelle toujours à un surcroît d'être, comme une poussée qui travaille en nous à agrandir l'horizon, à nous sortir de nos étroitesses. Je vous rappelle que c'est l'étymologie du mot « Égypte ». Qui nous appelle à sortir de nos étroitesses pour nous permettre d'enjamber, j'emploie à dessein ce mot, d'enjamber les forces de mort qui nous tirent vers le bas. Vous vous souvenez que Pessah, ça veut dire passer par-dessus, hein, l'étymologie de Pâques. C'est le verbe qui veut dire passer, sauter par-dessus. Et si le nom que Dieu se donne est volontairement indéterminé, indéterminant, hein, il reste un mystère, c'est justement pour nous libérer de tout déterminisme. Qui nous sommes, nous ne pouvons pas le savoir sans marcher dans notre vie. Et Dieu non plus ne le sait pas qui marche avec nous. Je serai. Hein. Si ce savoir existait, si Dieu savait avant nous ce que nous avons à être, eh bien, cela ferait de Dieu un démiurge et de nous des marionnettes. C'est un auteur que, aussi juif dans lequel j'ai beaucoup, chez qui j'ai pas mal lu, qui disait il ferait au fond ce Dieu-là. Il ferait, non, cette manière de penser que Dieu est au fond du côté du déterminisme, cela ferait de Dieu un objet, du monde un fossile et de nous des zombies. C'est pourquoi la Torah fait parler Dieu à l'inaccompli, je serai. Au fond, rien n'est dit, c'est à découvrir, hein, c'est à chercher. Ni de Dieu, ni de nous. Rien n'est dit, ni rien n'est jamais définitivement dit. Et dans le nuage d'inconnaissance, qui est ce fameux livre d'un auteur anglais inconnu, hein, du XIVe siècle, il est dit, ce n'est point ce que tu es ou ce que tu as été que Dieu regarde avec les yeux de sa miséricorde, mais ce que tu as désir d'être. Ce n'est pas ce que tu as été, mais ce que tu as désir d'être. Alors, au fond, voilà, tout ça pour vous dire que je pense que Dieu, c'est au fond l'invitation à ne pas en rester là, dans nos vies. Que ce n'est pas le Tout-Puissant, peut-être, mais le tout peut-être, précisément. Cette expression, je l'emprunte à François Cassagena-Trevedi, qui est un ami poète, qui dit « Dieu, ce n'est pas le tout-puissant, mais c'est le tout peut-être ». Donc, au fond, Dieu est en nous le possible qui nous attend, qui est toujours en avant de nous. Quand je fais mon possible, eh bien, peut-être que, en quelque sorte, je fais Dieu lui-même en moi. Et je termine par une citation d'un rabbin, du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui résume, je crois, assez bien ce que j'ai voulu partager ce soir avec vous. Voilà ce qu'il dit. « Le divin est en nous comme une dimension dont notre existence témoigne et que notre nature postule. » Pour le rencontrer, il suffit d'atteindre une certaine qualité d'existence. Celle-ci ne dépend nullement de l'intelligence ou du savoir, mais d'un engagement allant dans le sens d'un surcroît de vie. C'est toujours finalement une question de vitalité. Il ne s'agit pas de mots ni d'idées, mais d'une option de l'âme qui veut vivre au plus haut d'elle-même, d'une option de l'âme qui veut vivre au plus haut d'elle-même. Voilà, je vous remercie.